Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou!
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'as fou, c'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais.
Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non, mais c'était un coup, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, nous sommes à l'émission des entonnoirs, la 256. Donc, voilà, je vais vous présenter le sommaire. Chronique musicale de Roger Lucien. Après, donc, il y aura Mehmet et Thomas qui vont nous parler de leur activité.
L'activité, c'est l'Algérie, la vie, toujours.
Voilà.
Qui va avoir lieu à Roubaix à la condition publique. C'est important.
Voilà. Donc après, il y aura la spirale de Jérôme, le tour de table, chronique sport, après musique Margot, poème Bruno Morello, chronique santé et musique de Nicolas Daquin. Alors donc, on va commencer par la chronique musique de Roger Lucien.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la direction de l'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun, où nous allons écouter un artiste qui est connu sur le plan local et sur le plan international, en la personne de Richard Bona, qui nous interprète un morceau qui est un peu du style indien. Vous allez écouter, vous verrez que c'est vraiment une musique de là-bas, même si c'est un chanteur camerounais. Et donc, il nous interprète Shiva Mantra.
खोजत खोजत तुमको साजन मैं आप ही आप खो गई रे खोजत खोजत साजन मैं खो गई रे
C'était donc une production Richard Bouna. Donc voilà.
Donc maintenant nous allons passer à la suite. Donc je passe la parole à Marie-Agnès.
Oui, bonjour. Bienvenue Bruno et Mehmet. Alors l'un pour Break.
Thomas.
Il n'y a rien à faire. Voilà, excusez-moi, depuis tout à l'heure j'appelle Thomas Bruno. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors donc, c'est pas Bruno, mais bien Thomas de Break Productions et Mehmet de Tribu. Voilà. Alors bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Mehmet, vous êtes habitué à venir nous faire un petit coucou de temps en temps. Voilà, nous on est habitué à vous voir. Petit humour décadent. Hein, voilà. Alors, vous nous avez préparé quelque chose de super ce week-end. Vous voulez nous en parler un petit peu, nous dire un peu déjà nous donner le programme pour nous mettre l'eau à la bouche. Et ensuite, je vous assaisonnerai.
Alors, ça commence vendredi, vendredi 27 avril. Donc nous, avec Mehmet, on a décidé de faire ça de façon complémentaire. Donc Mehmet, pour sa partie documentaire, film, débat, et moi j'interviens essentiellement sur la musique et le théâtre. Voilà, donc c'est un week-end bien complet avec plein de choses, donc des conférences, des débats, des films donc, du concert et du théâtre. Okay. Donc ça commence vendredi, comme je vous le disais, avec d'abord un premier film. Donc le premier film qui est Les arbres poussent en Kabylie à 20h. Donc c'est un film de Djamila Sarraoui, dont Mehmet se détaillera un peu plus après, et on enchaînera avec un concert d'Amazir Kateb. Donc voilà, version trio dans l'alimentation, la condition publique, là où il y a les jeudis de l'alimentation.
Okay.
Voilà. Et le samedi, il y a deux films, il y a deux films, une conférence, la pièce de théâtre. Et voilà, donc ça c'est une plus grosse journée, c'est un plus gros programme, c'est le samedi 28. Ça commence à partir de 14h30.
Oui, j'ai vu, samedi. C'était une journée relativement chargée, voilà. Des films, deux projections et puis aussi une pièce de théâtre. Et puis la rencontre avec le fils de Kateb Yassine.
Voilà.
Hein, donc et après un after, mais ça c'est bien sûr c'est la cerise sur le gâteau.
Exactement.
Voilà. C'est une question pratique. C'est payant ou?
Oui, c'est payant. Pas tout. On a demandé une participation au niveau du concert et de la pièce de théâtre de 5 euros. Voilà, parce que
Rien n'est gratuit dans la vie.
Il faut vivre.
Voilà.
Et
ouais, ça coûte cher. Voilà, faut payer les artistes. Donc voilà, donc ouais, il y a 5 euros pour la pièce de théâtre et 5 euros pour le concert.
Sinon, le reste, les projections, des débats,
vous êtes les
des
bienvenus.
Films et participation au débat, c'est
gratuit.
Libre.
Tout le reste est gratuit.
Voilà. Ah bah moi, j'ai à mon tour de vous assaisonner maintenant. Est-ce que vous voulez me dire pourquoi vous avez mis l'Algérie, la vie toujours?
Écoutez, moi, je vais pas vous répondre. Étant donné que le titre on y a pensé ensemble et que moi j'avais des idées beaucoup moins bonnes de Mehmet voilà.
En fait, c'est un titre qu'on a emprunté à un film qui existe déjà de Jamila Sahraoui qu'on a programmé le vendredi 27 avril. Pourquoi en fait l'Algérie l'avait toujours, parce que je connaissais pas l'Algérie et j'ai fait connaissance avec ce pays depuis quelques temps, pas à travers mon travail ou à travers les amitiés ou des histoires d'amour. Donc, et en fait, je trouve que c'est un pays où les gens, ils ont une force de vivre, une envie de te rester debout malgré tout ce qui leur arrive, on va dire. Ils ont vécu quand même une histoire coloniale assez violente, même pour s'en débarrasser, une guerre de 8 ans qui a duré, ensuite à peine terminée, des problèmes intérieurs, après l'histoire du terrorisme auquel se mêlent les catastrophes naturelles, etc. Et donc voilà, et malgré tout, il y a une forme d'une rage d'envie de vivre qui je trouve, voilà, l'Algérie la vit toujours malgré tout, quoi.
Ils ont le terrorisme, une guerre civile,
voilà,
une catastrophe.
Voilà.
Ça. Ah ben dites donc, c'est un sacré programme. Oui, c'est vrai que quand on fait quand on essaye de se rappeler un peu son histoire, malheureusement ça fait partie de l'histoire de France aussi chez nous. Moins, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis de côté, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que c'est pas un pays épargné. Oui.
Non, mais c'est juste pour souligner ce que tu dis, parce que nous à travers les différentes programmations et les différentes thématiques qu'on a programmées autour des films ici, à la condition publique entre autres, et avant à Bar Live avec Thomas, on faisait la même chose mais ailleurs. Et en fait, on a toujours soutenu que l'histoire de l'Algérie jusqu'à récemment, c'est l'histoire de la France, quoi. En tout cas, c'est
bien
pas
sûr.
Aussi, c'est totalement, c'est complètement
l'Algérie française.
Sauf une chose, c'est que vous en êtes convaincu, je suppose que les Algériens en partagent une partie, mais il faut reconnaître que pendant de nombreux temps, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas apparues, ne serait-ce que dans les livres.
Puisque 1999, on n'avait pas le droit de parler de guerre d'Algérie.
Exactement.
Ça a été voté à l'Assemblée nationale en 99, en avril,
voilà.
Je crois, pour dire qu'on avait le droit de parler de guerre d'Algérie. Officiellement, sinon, on était attaqué.
Oui, c'est clair que bon, donc ça fait partie.
40 ans pour assumer une guerre.
Voilà,
déjà,
ça fait partie de ce... C'est pour ça que j'ai
un petit peu hésité.
Bon, maintenant, je partage parfaitement vos avis.
Alors, est-ce que votre spectacle a une relation avec le 50e anniversaire de l'indépendance d'Algérie?
Complètement.
Merci d'avoir posé la question, parce qu'on en a oublié de le dire.
Ouais.
En effet, cette année, en fait, le 50e anniversaire... pour moi, de la fin de la guerre d'Algérie, et pour d'autres,
de
l'indépendance. Et en effet, on est en plein dedans.
Voilà, ouais, c'est parti de là aussi, cette idée de...
Et là, on peut dire alors que Kateb Yassine, il a joué là-dedans
Kateb Yassine, ouais, c'est un bon moteur culturel pour l'Algérie depuis des années, dans le sens où il représente tout à fait la complexité algérienne, la complexité culturelle. La langue, les origines, les tribus d'avant colonisation, les ethnies qui existent en Algérie, les langues, enfin tout ce qui va avec le berbère, le chaoui, la culture qui est autour de la langue, et lui, même la langue française, il l'a jamais dénigrée. Donc il est connu pour ça, c'est un artiste francophone. Voilà, il a toujours mis en avant, pour lui, si on peut parler d'un apport des Français, lui il pense que la langue française est un apport à la culture algérienne.
C'est un trésor de guerre, dit-il.
Donc, c'est un trésor de guerre, exactement.
C'est bien dit.
Ouais.
Est-ce que je peux y aller? Oui, par rapport à ça, ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans les médias officiels, pourtant très, très, très fliqués, très verrouillés, sur France 2, j'ai pu voir, ou France 3, je ne sais plus, j'ai pu voir il y a 2-3 semaines, on faisait l'éloge d'un porteur de valise du FLN. Oui, non, mais... Et donc, il y a un progrès, quand même, il y a un progrès.
Il y a eu un progrès, là, ces dernières
années. Et des films comme Indigènes peuvent ressortir, ou d'autres films par rapport à Sétif. Donc, et par rapport à ça, moi, je dis que, c'est encourageant, et moi, j'ai une relation amoureuse avec l'Algérie. Je suis toujours amoureux de l'Algérienne, et puis...
Surtout.
Oui, c'est arrivé. Et puis, je tiens à dire ici que la femme la plus qui a les hauts bleus les plus beaux du monde, c'est une Algérienne, c'est... Comment elle s'appelle, Djoudjoura, voilà.
On a le sang chaud. C'est pas hors sujet, mais juste, connaissez-vous la chanson L'Algérie mon amour, l'Algérie pour toujours?
J'ai déjà entendu.
Oui,
je connais qui l'a fait.
Elle a été reprise par plein de gens, elle a été chantée par. Ouais, bon, on la connaît.
Oui. Sur Alger, j'ai vu ça sur Alger, c'est une chanson franchement avec des acteurs et.
Je sais pas qui est le créateur, mais ouais, elle est super connue cette chanson. Ouais,
elle est belle,
très connue. Ouais,
sinon, je connais une autre chanson, une belle chanson sur Alger, c'est Lily Boniche qui le chante.
Est-ce que tu peux chanter un peu?
Ah non.
Un peu l'air, ça serait génial.
Franchement, non.
Non,
Thomas, il peut chanter lui.
Non,
il est dans la musique.
Tu peux dire qui est Lily Boniche?
Lily Boniche, en fait, est un musicien de l'époque de justement l'Algérie française. C'était un musicien juif d'Algérie qui chantait aussi bien en arabe qu'en français. Et d'ailleurs, ce qu'on essaie de nous faire oublier un peu, que ces gens-là vivaient ensemble et que jusqu'à certaines mesures dans une relativité. De fraternité et que les choses se sont gâtées à un moment donné de l'histoire.
Si j'ai bien compris, Kateb, c'était un précurseur pour la liberté en Algérie. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres à part lui?
C'était un précurseur de la liberté? Non, c'est peut-être un peu. C'est un précurseur en tout cas du pluralisme culturel algérien, oui, qu'il a défendu tout de suite après l'indépendance. Et ensuite, c'est que, en fait, lui, il n'a pas vraiment lutté. Il a lutté pas avec ses armes, il a lutté avec les idées. Et ensuite, il s'est vachement démarqué. Il s'est un peu exilé du pays. Il a eu un grand moment où il est pu. Il a été, en France, en Russie. Il a été en France, en Russie, un peu dans beaucoup de pays. Il a été peut-être un peu déçu de ce qui est devenu l'indépendance de son pays. C'est pour ça que ce que tu disais, Mehmet, tout à l'heure, quand il disait qu'on fête pas les 50 ans. Enfin, moi, je suis comme du même avis. C'est qu'on fête pas les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. On fête les 50 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Parce que l'indépendance, ils l'ont pas encore. C'est encore voilà.
Pourquoi ils n'ont pas l'indépendance?
Ils n'ont pas l'indépendance parce que l'indépendance, c'est un. Enfin, on parle de démocratie, de d'un peuple avec une nation, une constitution. Là, le peuple, il a rien. Il a pas de possibilité. Il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est une fausse démocratie. Il y a une liberté de la presse, soit, mais je veux dire, ils sont pas encore indépendants. Il y a encore une histoire avec la France qui est trop lourde, rien qu'avec les histoires d'immigration ou le regard des. Enfin, il y a plein d'histoires. Il y a les harkis, et ils ont pas réglé leurs problèmes, donc l'indépendance, pour moi, enfin leurs problèmes, ils ont pas réglé les problèmes de les collatéraux, les dommages collatéraux de cette guerre, ils sont encore à vif. Voilà.
Je crois qu'il y a ce qui se passe en Algérie, c'est que c'est une bourgeoisie nationale qui a pris le pouvoir, qui était très nationaliste à un moment donné, mais vu la mondialisation, son nationalisme a pris un coup et puis qu'elle se fait bouffer un petit peu par l'impérialisme.
Toujours nationaliste. Alors ça, toujours nationaliste, mais vachement capitaliste. Vachement capitaliste, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans l'économie de marché, on a des pétrodollars et puis voilà, c'est un potentat, c'est un gratin de généraux qui tiennent le pouvoir depuis 50 ans. Donc voilà.
Ben en fait, c'est juste pour prolonger cette idée que l'Algérie, les Algériens n'ont pas eu leur indépendance de façon objective. Si, je veux dire, s'il y a un pays qui existe avec des frontières, un drapeau, une constitution, une assemblée qui le gouverne, etc. Mais pour expliquer les choses plus simplement, enfin moi du point de vue au moins idéologique, c'est que vous connaissez Frantz Fanon, c'est un intellectuel d'origine martiniquais qui a en fait à un moment s'est engagé dans la cause de l'indépendance de l'Algérie et il est ethnopsychiatre, on pourrait dire, pour aller vite. Il a fait on pourrait me corriger si c'est pas ça. Et après il a fait deux bouquins, mais entre autres un qui s'appelle Les damnés de la terre, dans lequel en fait durant la guerre d'Algérie il a déjà vu le vent tourner, c'est-à-dire qu'il dit que dans ces guerres d'indépendance contre une puissance coloniale très forte, En fait, dans la mesure où le peuple est sur le terrain en train de faire la guerre, se faire tuer, et il n'a pas le temps de s'éduquer pour prendre le relais, former des cadres, et ceux qui prennent le pays après le départ des indépendances, enfin le début des indépendances, ce sont ceux qui côtoyaient de toutes les façons les colons, et que ceux qui ont récupéré le pouvoir en Algérie, ceux qui convoitaient la place du colon et n'ont pas forcément souhaité l'émancipation du peuple. En gros, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays d'Afrique anciennement colonisée, quoi.
Et même dans un pays comme l'URSS.
Bon, eh ben on va revenir au week-end. Voilà, donc parce que on était un petit peu pas trop loin, mais bon, disons que.
Ah, faut pas nous chauffer.
Non, mais vous nous donnez beaucoup de clés, je crois. Il faut quand même qu'on vienne à votre week-end, donc qu'on participe. Et comment ça vous est venu l'idée de mettre Amazir Kateb dans le bain, ou c'est lui qui est venu vers vous, vous qui êtes allé chercher?
Oui, enfin c'est nous qui sommes allés chercher. Moi, je travaille avec lui donc sur d'autres concerts là depuis quelques temps, depuis quelques années, et du coup, moi, je trouvais très à propos par rapport au week-end et surtout dans son discours, parce que dans ce qu'il écrit, ce que vient de dire Mehmet, par exemple, il l'écrit en chanson sur ce qui est devenu l'indépendance de l'Algérie, donc il était tout à fait. Et
pour
en plus,
vous, c'est une continuation de ce que le père a entrepris.
Oui, c'est une continuation. Ouais.
Bon, même si c'est pas sous le même ordre, bon, il écrit, mais il le chante.
Il écrit aussi d'autres choses. Il y sera dans la pièce de théâtre. C'est un des acteurs de la pièce de théâtre.
Ah d'accord.
Son père était acteur de théâtre. Donc voilà. Je pense qu'il y a une grande inspiration du père, là, une grande influence. Ouais.
Voilà, il y a un gros partage qui se fait.
C'est un autre médium, mais c'est le même démarche. Voilà.
Et vous avez l'impression que c'est qu'il y a un suivi. Ouais. Alors moi, ce qui me choque quand même un petit peu, c'est que le samedi, enfin, ce qui me choque, il doit y avoir une raison, c'est la projection, la Chine est encore loin. Ben, qu'est-ce qu'elle vient faire, la Chine, avec l'Algérie?
Et en fait, la Chine est encore loin, c'est le titre qui vous fait dire ça.
Oui.
Je vais vous expliquer. Le film est un film algérien.
Ton micro.
Franco-algérien, en fait, d'un réalisateur algérien qui s'appelle Malek Ben Smail. Et en fait, le film s'appelle La Chine est encore loin parce que il y a un hadith du prophète Mahomet, qui est pas dans le Coran, justement, c'est ce qui est répété oralement, qui dit en fait qu'il faut aller chercher la science même si elle se trouve en Chine.
Okay.
C'est-à-dire où il donnerait l'importance de la recherche, la réflexion, la science, etc. Et le constat de ce film dit que la Chine est encore trop loin pour les Algériens. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce chemin-là, on n'a pas pu aller chercher la science, puisque le tournage, le décor du film est une école primaire, en fait.
Oui.
Donc, le film se déroule dans une école.
Je vois bien l'image, quoi. Donc, de ce fait-là, c'est que la Chine, c'est juste le chemin à parcourir.
C'est ça, exactement. Voilà.
Ah, je comprends mieux. Voilà.
Alors, par rapport à ce spectacle, on va en revenir, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands thèmes que vous allez aborder pendant la présentation des films, des documentaires, de la pièce de théâtre et de la musique? Quels sont les grands thèmes, en fait?
Sur les films, tu peux peut-être commencer.
En fait, sur les films, c'est ce qu'on aimerait, justement, c'est pour pas tomber dans une démarche commémorative, c'est-à-dire ouais, c'est chouette, etc., c'est 50e anniversaire de l'indépendance. C'est justement partir de l'indépendance ou pas l'indépendance, on l'a eu, il a eu lieu, il a pas eu lieu, quelles sont les attentes du peuple algérien, quels étaient leurs espoirs, pour comprendre aussi pour pouvoir mesurer l'importance de la déception. Et en tout cas, pour se faire aider sur ces thème là, on a invité un sociologue qui s'appelle Saïd Bouamama qui nous accompagne régulièrement dans ce qu'on fait ici. Donc voilà, c'est ce qui va nous guider en fait. Et tout ça, comment faire le lien avec le travail littéraire de Kateb Yassine, et comment en fait, parce que dans l'œuvre de Kateb Yassine, il y a en effet la musique, le théâtre, un peu le cinéma, mais aussi de façon plus directe, il s'est senti concerné à l'époque de son exil en France par rapport aux questions d'immigration algérien, etc. Donc voilà, c'est un petit peu à travers les différents rapports France-Algérie et les attentes des Algériens par rapport à leur indépendance, c'est ce qui va nous guider dans les thématiques qui vont revenir assez fort, de façon forte.
Très bien.
Donc je vais... Oui,
une petite remarque. J'ai rencontré une fois Katabiasi, une fois au bar 301.
Amazir,
le fils. Excusez-moi. Parce que je pensais en même temps son père, c'est pour ça. Au 301, et il m'avait dit, la France, je suis francophile, mais pas pour la politique de son pays, mais pour les poètes.
Voilà. Ouais, voilà. C'est ça, bien résumé.
Bien, et vous aviez d'autres petites choses à dire, Thomas?
Non, du tout.
Le côté musique, tout
non,
ça.
Non, il va y avoir, c'est un peu le côté, on va dire, festif aussi du week-end, parce que même s'il a des textes qui parlent d'Algérie, ça va chanter en arabe, il y aura une grosse influence charabi, il y aura des morceaux vachement festifs, il y aura des morceaux un peu plus engagés, parce qu'il a des paroles aussi qui sont engagées. Donc voilà, ça va être un petit moment, un bon moment festif sur le week-end, et la pièce de théâtre, c'est un peu aussi l'événement détente du week-end.
Ok, Thomas j'ai une question. L'amour et la révolution. Attention, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se cache, mais pourquoi c'est un mot fort. Je veux dire, ouais. L'amour est un mot fort, mais la révolution aussi. J'ai besoin de poser la question.
En fait, ça c'est à travers le film, en fait, que. Dans la vie de Katabiasi, d'après ce qu'il raconte de lui-même, c'est que ce sont deux choses qui l'ont complètement réorienté sa vie. C'est-à-dire la première fois, il tombe amoureux de sa cousine entre deux portes, et là, il découvre l'amour et toute sa vie prend un autre sens. Et la deuxième fois où sa vie est de nouveau réorientée et reprend un autre sens, c'est à partir de ou suite les conséquences des massacres de Sétif de 8 mai 1945. En fait, il dit
le départ de la révolution algérienne.
Et qui a allumé la bougie de la révolution algérienne. Et en fait, il raconte que c'est là qu'il s'est vraiment rendu compte de ce que c'était de rapport dominant. Et que bien qu'il ait vécu de façon un petit peu protégée de tout ça, et au moment où il s'est retrouvé en prison avec le peuple, il s'est rendu compte qu'on était sur une voie irréversible, on peut dire, sur une voie où on ne peut pas faire demi-tour, et que c'était l'indépendance de l'Algérie, en fait.
Ah voilà, bah je vous remercie. Donc, je vous rappelle, le vendredi 27 et le samedi 28, sachant que le samedi, c'est la journée la plus remplie, on vous invite à venir à la condition publique et venir, je crois que vous avez été un petit peu alléché, donc venir satisfaire votre curiosité. Donc, je vous rappelle à la condition publique.
Voilà, donc nous allons continuer avec la spirale de Jérôme.
Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
On est en direct. C'est pour ça, vous allez entendre là en direct un morceau de. Ça m'étonnerait que tu aimes beaucoup. En fait, c'est un groupe que j'aime beaucoup pour les introductions. L'intro, guitare, basse, batterie, et après chant. Enfin, au début, c'est bien de mettre fort. Chers auditeurs, mettez fort votre volume de radio, et vous baisserez après, parce que après ça devient noisy, quoi. C'est AC/DC. AC/DC nucléaire, mais AC/DC, le groupe AC/DC. Tu vois quoi? Et alors, I put a finger, ta 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 ta. Yeah.
Grenoble.
Voilà, alors c'est sans concession, c'est brutal, c'est noisy, c'est électrique, c'est AC/DC et c'est australien, ça nous vient d'Australie, voilà.
Non, c'est pas mal.
Et donc, en grand admirateur de AC/DC, je dis vive la vie.
Donc Chantal a une petite annonce à nous faire, Chantal.
Oui, alors bonjour à tous, contente de me retrouver parmi vous. Et bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Voilà, pour faire encore le lien avec l'Algérie, j'aime beaucoup les Algériens, j'en suis beaucoup entourée. Je ne sais pas si c'est le fait d'un hasard, mais bon, ils m'apportent énormément. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres admirables il y a environ 8 ans. Et donc, j'ai rejoint une association d'art et dont les professeurs et artistes incontestés se nomment Samir Leksouri, qui fait de la sculpture modelage avec de l'argile chamottée et d'autres argiles, voilà. Et aussi Abdelrani Bouregba, qui fait des œuvres vraiment de toute beauté. Dernièrement, ils ont fait une exposition aux Inuits à Roubaix, mais bon, là, l'exposition est malheureusement terminée. Je faisais cette petite annonce parce que Abdelrani va venir le 14 mai ici même pour se présenter. Il va faire partie de nos invités. Et malheureusement, les portes ouvertes à son atelier seront la veille et l'avant-veille. Donc, je vous propose d'aller voir le 12 et 13 mai à l'atelier Le Chariot d'Art à Roubaix. Ça se situe au 18 bis rue de Tourcoing à Roubaix. En fait, c'est assez facile de trouver. C'est pas loin de la place de la Fosse aux Chênes et ça jouxte le commissariat de police. Donc, il ne faut pas passer par la grande porte, encore que peut-être là, ça sera ouvert. Il y a une petite porte dérobée, comme ici, lorsqu'on vient. Voilà. Eh bien, moi, je vous invite à y aller. Vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment magnifique, ce qu'ils font. Donc, encore quelques instants, si vous voulez bien. Ils interviennent aussi dans des centres sociaux, font des animations avec des enfants, font de la formation pour adultes. C'est magnifique.
D'accord. Oui, et par rapport à ça, si vous manquez d'énergie pour y aller, il y a l'EDF pas loin. Voilà quoi.
Bon, on va enchaîner donc maintenant avec le tour de table présidentiel. Donc, qui est-ce qui veut parler?
Vas-y, Margot, commence.
Moi, je commence. Non.
Moi, je vais commencer.
Bon, je vais commencer moi. Bon, je vais être très court, Ahmed. Oui. François Hollande a gagné, mais il est, mais c'est pas comment dire. C'est un mou peut-être, mais il y a, à mon avis, il a envie de se débarrasser du. Il peut s'en sortir que s'il se débarrasse des pressions du 440 et aussi de cons autour de lui, d'arrivistes du PS qu'il y a autour de lui. Voilà.
Moi, j'ai une simple dimension que je voulais vous dire. J'ai pris une dimension à ces élections en faisant une fiesta à Boomerang, en étant direct sous ces classes. Bon, on était un peu bourreux, bien sûr. Hein. Et puis alors, en fait, j'ai pris la dimension, le droit et le devoir. Bon, voter est un droit et un devoir. Mais il y a la liberté, quelque part aussi. C'est surtout même la liberté. Voter, c'est la liberté de voter ou ne pas voter. Si personne vote, ben, ils sont bien emmerdés. Donc, c'est un droit, un devoir et une liberté de voter. La France a encore cette chance. La France est encore quand même une démocratie.
Moi, je suis très indécis pour le deuxième tour. Et j'aimerais dire qu'en fait, comme la majorité des partis perdants au premier tour sont de gauche, en principe, ce qui va faire la différence, c'est le vote autour de Bayrou. Bayrou qui va annexer les électeurs pour qu'ils votent pour l'un ou pour l'autre, pour Hollande ou pour Sarkozy, ça dépendra de Bayrou ou de Bayrou.
Merci. Moi, je vais dire qu'il faut se méfier des extrêmes. Il y a un parti que je qualifierais d'extrémiste au cours de cette élection présidentielle qui a obtenu un nombre important de suffrages. Je pense qu'autour de cette table, certains se souviennent se souviennent de la situation qui prévalait il y a une vingtaine d'années dans un pays comme l'Afrique du Sud, où on avait à sa tête un régime extrêmement raciste. Et le parti actuel, extrémiste que je viens de parler, soutenait ce régime extrêmement raciste et violent. Donc méfiez-vous des extrêmes. Voilà.
Moi, je voudrais dire que le désespoir et autres peut amener certaines personnes à se tromper. Je pense qu'il y a un enjeu majeur entre ces deux tours et bien après de peut-être ramener ces personnes désespérées, perdues, à les amener peut-être à ne pas se tromper, à voter juste. Parce que je pense que 2 et 2, je sais pas, c'est Mitterrand qui les disait, 2 et 2 ne font pas 4, rien n'est gagné. Et soyons vigilants. Je pense qu'il y a des enjeux majeurs depuis quelques années en France. Je pense même s'il y a la crise derrière, il y a quand même effectivement le terrain, il est quand même sensible et dangereux.
Oui, bonjour, voilà, je m'appelle monsieur Hakim Ben Balouli. Il y a une chose que je comprends pas en Algérie, c'est que soi-disant il y a une liberté, mais pour les femmes, il n'y en a pas. Et ça, je ne comprends pas. Les femmes sont traitées comme des animaux. Et ça, je ne l'accepte pas, quoi. Parce que l'homme est égal à la femme. Moi, j'ai une femme, elle est égale à moi. Donc, c'est incompréhensible, quoi. Souhaitons que... Il se passe quelque chose qui fait que les femmes seront comme les hommes en Algérie, quoi. Amin.
Alors moi, je voulais dire que on a vu quand même une grande poussée du Front National. Enfin, tout le monde s'y attendait, même les sondages le prédisaient. Et puis bon, ben, on se rend compte que c'est pas simplement en France. On voit qu'en Europe, il y a beaucoup d'extrémisme qui émerge. Et on va se demander maintenant où vont aller toutes ces voix. Est-ce qu'ils vont surenchérir les voiles de Sarkozy ou de Hollande? On n'a pas encore de réponse. Donc, et puis il y a aussi Bayrou qui a fait un très bon score. Et bon, il n'y a pas donné de consigne de vote. Il y a tout le monde s'est tu par rapport aux consignes de vote. Et j'attends le deuxième tour et voilà, on verra bien.
Moi, je voulais revenir sur le sentiment que j'avais par rapport à cette élection. On est dans une élection présidentielle, on élit une personne, on essaie de voir. Enfin, je trouve que cette élection, surtout cette année, elle veut vraiment pas dire grand-chose. On est même plus dans un débat d'idées, on cherche une personne qui est charismatique, celui qui aura le plus de gueule, celui qui passe le mieux à la télé. Le meilleur exemple, c'est par exemple les arguments de Sarkozy qui dit que, imaginez si ça avait été Ségolène Royal au pouvoir, comment ça serait passé, ou les gens qui me disent qu'il faut quelqu'un qui ait du charisme pour l'international, des choses comme ça. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, et ce qui m'inquiète encore plus, c'est la montée du FN, parce que quand on creuse le discours du FN, on se rend bien compte que c'est complètement creux. Quand on demande les propositions qu'il y a derrière, que ce soit en économie, en matière de justice, en matière d'éducation, tout ça, on se rend compte que le programme est vide, et c'est que de la démagogie. Mais les gens adhèrent à ces idées-là. On a tellement... Et le pire, c'est ça. En fait, ça doit correspondre à notre époque. On est en 2012, tout va très vite. On a tous accès avec nos téléphones portables, la télé, la radio, à l'information. On est noyé d'informations. Et ce qu'ils retiennent, c'est voilà, on est là-dedans dans un truc de la personnalité.
Est-ce que nos invités ont peut-être une réaction face à cette élection, Mehmet ou Thomas?
Ben moi en fait je vais pas essayer d'analyser les pourcentages etc, mais comme le copain tout à l'heure disait, oui, une réaction, c'est quand il a bu, il avait fait la fête hier. Moi j'ai la gueule de bois, mais j'ai pas bu en fait. Ouais. J'ai quand même une gueule de bois ce matin là, en me réveillant, en voyant les 20% du FN. Je me dis qu'on est on va vers une société qui fait vraiment flipper, qui pose des questions qu'on devrait se prendre à bras le corps, parce que juste en termes de, après je lâche le micro, mais c'est juste, par exemple, quand on regarde sur la question du racisme, il n'y a plus aucune action autour de nous de réaction, de manifestation, d'organisation antiraciste. Il n'y a plus, comme si c'était un problème réglé, qu'on avait le droit d'être raciste et être républicaine en même temps, etc. Et c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure avec tout le monde. On disait, en fait, à la limite, en France, on est peut-être un petit peu en retard par rapport au reste de l'Europe. Hein. On a connu un président ancien nazi en Autriche. en Italie, il y a la Ligue du Nord qui est dans le gouvernement. En Hollande, c'est qui influe aussi sur les décisions du gouvernement. Je pense qu'on est dans un mouvement européen. Et ça arrive jusqu'à là, et moi je me dis, il y a matière à réfléchir, à poser des actes et des actions dans le futur en prenant en compte cette question. Ça veut dire quoi concrètement, si on prend les chiffres, c'est-à-dire qu'un pour un Français sur cinq qui s'est déplacé aux urnes est un électeur de Front National.
6 millions exactement.
Et moi, une petite remarque pour terminer. Heureusement, pour notre chance, le Front National et l'UMP ne s'entendent pas.
Thomas.
Non, moi j'ai un discours très hack, et je vais en choquer certains.
Pas de réaction. D'accord. D'autres qui ont des réactions?
Non.
Plus de réactions?
Non.
On continue. Ah, peut-être. C'était un tour de table. En fait, c'était pas un débat.
Ouais, mais enfin, vas-y, ouais. Non, moi je vais dire aux électeurs, restons pragmatiques et votons efficacement, et donc une politique efficace, pas d'extrême.
Voilà. Ben donc maintenant on va continuer avec la chronique sport.
Oui, bonjour, bonjour à tous plutôt, chers auteurs, chers auditrices. Donc je vais commencer par l'actualité tennistique au sujet de l'Open de Madrid qui aura lieu donc sur terre battue, qui réunira tous les crocodiles de la terre battue. Donc si vous voulez que je fasse plus court et plus détaillé, donc il y aura les Argentins, les Espagnols, Tsonga est attendu, le numéro 6 mondial est attendu, ainsi qu'au Masters de Rome qui aura lieu du 14 au 20 mai 2012, donc le lendemain de la fin du tournoi de Madrid. Et je voulais ajouter que le tournoi de Barcelone se termine fin de semaine, donc en train de se terminer là. Allez, on est au bord de la finale. Et donc je vais enchaîner avec le foot. Et d'abord, je voulais vous parler des trois équipes qui se disputent le titre actuellement à 5 journées de la fin. Donc le Paris Saint-Germain, tout d'abord, le LOSC, pour lequel je suis. Donc c'est le club de mon cœur, et il y a sûrement d'autres qui aiment bien supporter le LOSC autour de la table. Et il y a enfin Montpellier. Alors théoriquement, si le PSG va à Lille et va à Valenciennes, donc si le PSG est battu deux fois et que Lille gagne à Montpellier et que Montpellier perd à Toulouse et à Rennes, deux équipes qui sont pas faciles à jouer, donc en principe donc si Lille et Valenciennes, les deux clubs septentrionaux du championnat, battent tour à tour le PSG, en principe le PSG serait troisième et Lille en deuxième position donc du classement final. Mais le problème c'est que lors de la dernière journée, Montpellier se rend à Auxerre qui est en queue de classement, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont relégables à la dernière place du classement. Et donc faut faire attention aussi au club de l'Olympique Lyonnais qui a une semaine à peu près a failli perdre son terrain contre Lorient qui a l'arraché à gagner. Donc là pour Lyon, Rennes, Saint-Etienne, la Ligue des Champions est encore jouable, je dirais. Et ensuite pour finir, Dortmund est champion d'Allemagne, donc devant le Bayern de Munich qui a gagné il y a une semaine, le week-end dernier, qui donc Dortmund de Götze est champion d'Allemagne. Merci, j'ai fini. Merci à vous.
Merci Florent. Donc maintenant, donc on va passer à ma musique. Donc on va écouter Fresh Cancan de Ina.
Moja,
ouais, c'est ça. Say a word, just Coco Choco Chanel, Coco Chanel Chocolat. In my heart, in my veins, I just couldn't take him out of my brain. Just a glance, I'm trained. This French fella was cute as hell. On my mind, in my bed, I just couldn't stop staring at him. Just a kiss. Say a word, just got a ring. Coco, Choco, Chanel, Coco, Donc maintenant, nous allons passer au poème de Bruno.
Ça va nous faire du bien. Un poème court mais d'amour, ça ne dérange pas ? Le poème s'intitule « J'aime ». J'aime les yeux profonds d'Isa, quand il dessine mélodieux, mon avenir prometteur en soleil radieux. J'aime la bouche fine et jouisseuse d'Isa, quand elle envoie un sensuel à souhait, des baisers légers qui m'atteignent, telle cette espérance savoureuse qui engendre une musicalité harmonieuse dans les exploits attisés des ardeurs de mon cœur. Et j'aime le corps ouvert, pétillant d'Isa, quand à l'idée de sa joie et de ses odeurs saisissantes et suaves, j'invente un érotisme vertigineux qui envahit et affole l'avenue fleurie de mes envies les plus folles.
Donc maintenant, on va enchaîner avec ma chronique. Donc voilà, je commence. Saviez-vous que dans le monde, il y a plus de 100 millions de diabétiques, dont 28% dans les pays asiatiques? Comment peut-on se rendre compte si on est porteur du diabète? Donc on peut avoir soif, la faim, la perte de vue, la fatigue, le mal de tête, les vertiges, ou du sucre dans les reins. Donc l'hypoglycémie, c'est quand on n'a pas assez de sucre dans le sang. Et l'hyperglycémie, c'est quand on en a trop dans le sang. Pourquoi diabète? C'est le pancréas qui ne fonctionne pas très bien. Il faut savoir que le diabète se soigne bien aujourd'hui, tout en respectant un régime adapté. Voilà, merci. Donc maintenant, on va continuer par la musique de... Oui ?
J'ai une petite remarque humoristique par rapport à ce que... J'ai un copain qui a attrapé le diabète en abusant de lune de miel.
Dis-moi, c'est marrant. Dis-moi, Margot, oui, le diabète, c'est dans les sucres dans le sang et aussi dans les urines, hein.
Dans les urines, oui. Ouais. Oui, ça peut arriver dans les urines. Okay. Donc maintenant, on va enchaîner avec la musique de Nicolas Daquin, qui sera présentée par Tar.
Alors je vais vous présenter une musique de Nicolas Daquin qui s'appelle Briques rouges et sable d'or. Alors oui, c'est un album qui a été écrit et supervisé par Nicolas Daquin. Alors vous pouvez trouver cet album sur internet. Voilà.
Je suis né au Oled Jelel et fille d'une cité du Nord. Déjà petite, j'étais belle, brique rouge et sable d'or. Loukoum, loubia et couscous, chicon pur et cassonade. J'ai grandi sans qu'on me pousse, mi Barbie, mi Sherazade. Brique rouge et sable d'or, le château de mon enfance. Posséder mille trésors, et Roubaix c'était Byzance. Il y avait souvent des fêtes, je me souviens des allumoirs et aussi des majorettes dans la rue Richard le Noir. Mini jupe et barésie, leur galon qui étincelle, en robe kabyle qui scintille, j'étais pas kiff kiff pareil. Briques rouges et sable d'or, le château de mon enfance, posséder mille trésors, et Roubaix c'était Byzance. À l'école, Madame Zigzag voulait qu'on marche tout droit. Chez moi, pour pas faire de vagues, je bossais mais ça se voyait pas. Entre ménage et tornade, vassingue et tapis volant, j'étudiais le temps des croisades en faisant le ramadan. Briques rouges et sable d'or, le château de mon enfance, posséder mille trésors, et Roubaix c'était Byzance. Briques rouges et sable d'or, cheminée et minaret, un pied dedans, l'autre dehors, ombrageux, ensoleillé. Le château de mon enfance avait le goût du secret, des portes qu'on croyait d'avance, qu'elles resteraient fermé. Puis j'ai grandi comme tout le monde, j'ai épousé un Français, j'ai une fille même pas blonde, un garçon même pas frisé, je suis Angela Bunnylon, des fois en robe de sarouel et des jolis cheveux longs, pas question de mettre les voiles. Briques rouges et sable d'or, le château de mon enfance, posséder mille trésors, et Roubaix c'était Byzance, 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 Byzance.
Alors, messieurs, dames, cet album s'intitule, pour finir, Briques rouges et sable d'or. Merci. Bon,
voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Nous souhaitons une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Salut, à bientôt.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Sur le blog des entonnoirs, http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
Parce que c'est les entonnoirs, parce qu'il y a un pifou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et lui un pifou, c'est ça les entonnoirs.